RFI 5h à Paris, il est midi à Pékin. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Nemo Ampi, c'est bon réveil si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI. Nous sommes le jeudi 6 mars et voici les titres de l'actualité internationale. La patrie a besoin de vous et de votre engagement, a lancé Emmanuel Macron, très solennel, hier devant les Français, allocution d'une quinzaine de minutes pour demander des efforts à ses concitoyens face à la menace russe et pour ouvrir le débat à l'échelle européenne sur la dissuasion nucléaire sous parapluie français. Les réactions ensuite aux propos de Donald Trump. 1h42 discours devant le Congrès hier qui ont fait beaucoup de bruit. Le Panama est vent debout après les nouvelles velléités d'annexion du canal par les États-Unis. Le Lesotho se dit choqué et embarrassé. Le petit pays d'Afrique australe pris pour cible par le président républicain pour de supposées aides américaines reçues. La Chine qui va réduire sa production d'acier. Le pays est le leader mondial du secteur de la sidérurgie. Et puis l'Indonésie tente la technique de l'ensemencement des nuages pour éloigner les fortes pluies qui frappent la région de Jakarta. On vous explique précisément de quoi il s'agit en fin de journal. Préparez-vous, la menace russe est là sur un ton grave. Emmanuel Macron a pris la parole face aux Français, une allocution d'une quinzaine de minutes à la télévision. Une menace russe qui touche tous les pays d'Europe, a souligné le président français, alors que se tient ce jeudi un Conseil européen extraordinaire à Bruxelles, avec au cœur des débats l'Ukraine et la défense européenne. Emmanuel Macron qui a aussi proposé d'ouvrir un débat stratégique sur la protection nucléaire des Européens. La France, l'un des 9 pays au monde à posséder l'arme nucléaire et qui propose d'étendre son parapluie nucléaire aux autres pays membres de l'Union européenne.
Dans ce temps de l'action qui s'ouvre enfin, la France a un statut particulier. Nous avons l'armée la plus efficace d'Europe. Et grâce au choix fait par nos aînés après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dotés de capacités de dissuasion nucléaire. Ceci nous protège beaucoup plus que nombre de nos voisins. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées.
Suite à cette prise de parole, Emmanuel Macron a rencontré le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, pour un dîner. Orban, soutien de Donald Trump et de Vladimir Poutine, l'une des voix les plus dissonantes de l'Union européenne. Avant le sommet qui se tiendra à Bruxelles tout à l'heure, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors que sur le terrain, en Ukraine, une frappe russe a fait au moins 2 morts et 7 blessés à Kryvyi Rih, dans le centre du pays, ville natale de Volodymyr Zelensky, située à environ 80 km de la ligne de front. L'Ukraine, qui serait par ailleurs d'accord pour de nouvelles discussions avec Washington, 6 jours après le clash à la Maison-Blanche et au lendemain du discours de Donald Trump devant le Congrès américain, qui affirmait que Volodymyr Zelensky serait prêt à négocier avec la Russie. Pendant 1h40, le président américain a abordé le dossier ukrainien, mais aussi répété sa volonté de récupérer le canal de Panama. Les États-Unis, principaux constructeurs du canal, c'était il y a plus d'un siècle, avant d'en céder la gestion au Panama en l'an 2000. Infrastructure que les Panaméens n'ont pas du tout l'intention de rétrocéder aux Américains, Grégoire Portier.
Le président Trump ment de nouveau. José Raúl Mulino n'a pas pris de pincettes pour répondre à son homologue américain. Sur le réseau social X, le chef de l'État panaméen a réagi fermement à l'affirmation de Donald Trump, selon lequel des négociations seraient en cours pour que les États-Unis récupèrent le canal de Panama. Mulino assure qu'il n'a jamais été question que son pays abandonne sa souveraineté nationale sur l'infrastructure, fondamentale à son économie, mais aussi à son identité. Le président panaméen avait déjà fait passer ce message à Marco Rubio, dont le premier déplacement en tant que nouveau secrétaire d'État avait justement été dans le petit pays d'Amérique centrale début février. Il devait s'entretenir avec Trump dans la foulée, mais leur rendez-vous téléphonique avait été annulé en dernière minute par la partie américaine. Mulino sera-t-il capable de résister longtemps ? On aurait pu croire qu'il disposait désormais d'un nouvel argument. Deux ports stratégiques contrôlés depuis 1997 par une société hongkongaise devraient bientôt être vendus à un consortium mené par BlackRock, ce qui renforcera considérablement la présence américaine dans la zone. Mais Donald Trump semble en vouloir encore bien davantage. Grégoire Portier, Panama, RFI.
Le Panama, outré par les propos de Donald Trump. Le Lesotho aussi, pour justifier les coupes budgétaires et l'arrêt de USAID. Donald Trump a hier cité le pays d'Afrique australe pays dont personne n'a jamais entendu parler, affirme-t-il, et qui aurait bénéficié, selon lui, de 8 millions de dollars pour promouvoir les communautés LGBT+. Massero, qui se dit choqué et embarrassé et qui a envoyé une lettre de protestation à Washington. La société civile déplore l'ignorance de Donald Trump, notamment le journaliste et militant pro-démocratie Cananello Bolowitzi.
Les États-Unis possèdent toute une ambassade ici dans notre capitale, Maseru. Donc dire que personne dans le gouvernement américain ne connaît le Lesotho, c'est étrange et c'est bizarre. Donald Trump fait preuve d'une grande ignorance, ou alors il voulait insulter le Lesotho et ses citoyens. Mais si jamais il souhaite en apprendre plus sur nous, il faut lui dire que notre pays est situé en Afrique australe, que Bill Gates est déjà venu au Lesotho et que son conseiller Elon Musk et sa compagnie Starlink cherchent en ce moment à s'installer au Lesotho. Donc c'est très étrange et très embarrassant pour Trump de dire que personne n'a jamais entendu parler de notre pays, alors que l'une des personnes les plus proches de lui est en ce moment même en train de faire une demande de licence pour son entreprise Starlink auprès des autorités du Lesotho.
Voilà pour la mise au point. Propos recueillis par Sidi Yansani. RFI, les 5h06 à Paris, midi 6 à Pékin. La Chine, premier producteur mondial d'acier, avec plus d'un milliard de tonnes produites en 2024, a décidé de réduire sa production, et ce alors que les taxes douanières décidées par Donald Trump doivent entrer en vigueur sur les produits chinois la semaine prochaine, le 12 mars précisément. Et outre ses droits de douane, la Chine veut aussi remédier à ses surcapacités dans le secteur, étant d'enrayer la chute de ses bénéfices. La sidérurgie chinoise sous pression face à l'effondrement de l'immobilier. Agnès Kakoumor.
Les taxes ne viennent pas seulement des États-Unis. Plusieurs pays, jusqu'ici gros clients de la Chine, ont décidé d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier. Après Washington, le Vietnam et la Corée du Sud ont fait des annonces similaires. Pour Hanoï, une taxe de 27% devrait entrer en vigueur le 7 mars prochain, quant à Séoul. À la suite de son enquête anti-subvention, des droits de douane allant jusqu'à 38% pourraient frapper provisoirement les importations chinoises de tôles d'acier. L'Inde pourrait aussi prendre des mesures semblables. Les exportations d'acier chinois bon marché commencent à poser problème. Dans la région, les voisins de la Chine veulent protéger leur production nationale. Mauvaise nouvelle pour Pékin, premier producteur mondial d'acier avec plus d'un milliard de tonnes produites en 2024. La Chine doit restructurer son secteur sidérurgique. Selon les autorités chinoises, cela devra passer par la réglementation et par la modernisation des sites de production.
Agnès Kakoumor du service économie de RFI. L'actualité en Asie, c'est aussi cette incroyable bévue en Corée du Sud. L'armée de l'air sud-coréenne qui affirme qu'un de ses avions de chasse a largué par erreur 8 bombes qui ont explosé au mauvais endroit lors d'un exercice militaire. Des explosions qui ont blessé plusieurs civils, un incident malheureux que l'armée dit profondément regretté. Et puis restez bien avec nous, nous serons aussi dans l'archipel d'Okinawa, au sud du Japon, juste après le journal. Mais pour l'heure, nous sommes en France, avec cette grève de la faim de 300 PADHUE, ces médecins diplômés hors de l'Union européenne, qui dénoncent leurs conditions d'exercice entre contrats précaires, salaires divisés par 3 ou 4 et leur énorme charge de travail. Une grève de la faim de 3 jours avant une nouvelle manifestation samedi devant le ministère de la Santé à Paris. Et parmi les grévistes, le docteur Zakaria Kamesh, psychiatre dans un hôpital de la région parisienne, qui nous explique les raisons de sa colère.
Parce qu'on travaille comme médecin, donc on fait les consultations, on fait les gardes, on prend en charge le malade de son entrée à l'hôpital jusqu'à sa sortie. Et en fait, la rémunération, elle suit pas. On nous oblige de préparer un examen en même temps avec le travail. Et quand on passe l'examen, les fameux EVC, on arrive à avoir la moyenne. Après, ils nous disent non. Au lieu de 200 postes ouverts par le ministère, ils prennent 80. 120 postes, c'est perdu. Donc, on veut juste sortir de l'insécurité et la précarité des contrats, parce que tous les 6 mois, on dit est-ce qu'ils vont prolonger, pas prolonger. Donc, c'est un stress. Peut-être il est silencieux, peut-être il y a personne qui parle de nous et tout. Ben, il reste la grève de la faim. Donc, c'est le dernier recours.
Des propos recueillis par Aram Beng. Enfin, direction l'Indonésie. L'Indonésie touchée par de très fortes précipitations autour de la capitale Jakarta. Au moins une personne est morte, des milliers d'autres ont été déplacés. Jakarta et son agglomération complètement paralysée. La métropole de 30 millions d'habitants qui doit faire face aux intempéries pendant encore une semaine. Et les autorités indonésiennes ont tenté de trouver une solution. Elles vont utiliser dans les zones montagneuses ce qu'on appelle la technique de l'ensemencement des nuages. Marine de Guglielmo Weber, elle est chercheuse à l'IRSERM, nous explique de quoi il s'agit.
L'ensemencement des nuages, c'est une pratique qui consiste à disperser dans les nuages des produits chimiques qui vont en fait en modifier la structure chimique et permettre d'influencer les précipitations. Donc ça peut être soit pour augmenter les chutes de pluie, soit parfois pour les faire advenir plus vite ou dans une région géographique différente, ou bien ça peut être aussi pour lutter contre les chutes de grêle. Alors comment ça fonctionne concrètement? Vous allez utiliser soit des avions, soit des ballons, soit encore des générateurs au sol, afin d'aller porter dans les nuages des solutions chimiques, qui peuvent être soit de l'iodure d'argent, soit des sels hygroscopiques. Et ces substances chimiques vont soit accélérer la condensation dans le nuage, soit augmenter le processus de congélation. Donc dans un premier cas, vous allez influencer les chutes de pluie, et dans un second cas, influencer les chutes de grêle. Et donc ça, ce sont des techniques qui sont utilisées très largement dans le monde par une cinquantaine d'États. Il n'y a pas de consensus scientifique aujourd'hui sur l'efficacité de ces pratiques, bien qu'elles soient utilisées depuis les années 50. Maintenant, on a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur leur efficacité dans la communauté scientifique.
Des propos recueillis par Yelena Tomic. On finit sur les terrains de football, fin des 8e allées de la Ligue des Champions. Et le hold-up pour Liverpool, vainqueur 1-0 sur la pelouse du PSG. Grâce à un but tardif d'Harvey Elliott à la 87e minute, des Parisiens qui ont buté sur un immense Alisson Becker dans la cage des Reds. Et puis le Bayern Munich qui est quasiment en quart de finale après son succès 3-0 contre le Bayer Leverkusen. C'est bien parti aussi pour l'Inter Milan également, vainqueur 2-0 à Rotterdam contre le Feyenoord. Bien parti aussi pour le Barça malgré le rouge de Cubarsí. Dès la 22e, les Catalans qui s'imposent 1-0 face au Benfica à Lisbonne grâce à l'inévitable Rafinha. Et puis lui, il ne va pas voir les terrains pour un moment. Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, suspendu jusqu'au 30 novembre après son coup de sang contre un arbitre. C'était le week-end dernier contre Monsieur Millot, l'entraîneur de l'OL, qui ne pourra pas non plus accéder à son vestiaire avant le 15 septembre. RFI, 5h12, ici à Paris, l'info continue.
RFI, toute l'actualité.
Martin Guez.
Et à suivre, dans le prochain quart d'heure, le reportage de nos envoyés spéciaux, Oriane Verdier et Julien Boileau, dans le camp de Tul Karem, en Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne mène depuis fin janvier l'opération Mur de Fer. Plus de 60 Palestiniens ont été tués, plus de 40 000 déplacés. Et ces camps de réfugiés, suspectés d'abriter des groupes armés, complètement vidés de leur population. Nous irons aussi au sud du Japon, dans l'archipel d'Okinawa, qui fait face au regain de tensions en mer de Chine orientale. Pékin multiplie les provocations et les intimidations, nous dira Bruno Duval. Nous feuilleterons Mayotte en République, album photo signé Franck Tombs, il sera l'invité de Muriel Mahalouf. Enfin pour finir, Caroline Paré et Priorité Santé sont au Sénégal, en Casamance, et la Congolaise Tchégué est de retour avec Sing My Song, mais pour l'heure, direction le Proche-Orient. Depuis fin janvier et l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, Israël a lancé l'opération Mur de Fer en Cisjordanie occupée. Opération qui a coûté la vie à au moins 63 Palestiniens depuis le 21 janvier et contraint 40 000 personnes à des déplacements forcés. Trois camps ont entièrement été vidés. Anour Shams, Jenin et Tul Karem, des camps qui accueillent des familles ayant fui ou ayant été expulsées lors de la création de l'État israélien en 1948. Des camps également fiefs de groupes armés palestiniens. L'armée israélienne qui continue ses destructions, y compris d'infrastructures civiles. Reportage à Tul Karem de nos envoyés spéciaux Oriane Verdier et Julien Boileau.
Ils m'ont dit de passer entre les deux camps. Il y a un sniper dans cet immeuble. Tu peux passer par là, mais n'entre pas dans les camps ou vous allez avoir des problèmes.
Moussa Abou Yazan était chargé des travaux dans l'école où nous nous trouvons. Il y a quelques semaines, il s'est improvisé coordinateur d'un refuge de fortune.
Il y a une famille dans chaque classe. De toute façon, toutes les écoles sont fermées en ce moment. C'est trop dangereux. Dans cette pièce, j'ai fait mettre Internet. Il n'y a que deux filles qui étudient. Les autres n'ont pas de livres.
C'est ma sœur et moi. On est 68 élèves connectés par vidéo. On vient tous du camp, mais on est éparpillés. Certains sont dans d'autres refuges, d'autres chez des proches.
Dans l'école, pas de chauffage, pas de quoi faire la cuisine non plus pour cette mère de famille.
On doit sortir pour aller aux toilettes. La nuit, il fait très froid pour mes enfants. Ils sont malades.
J'ai voulu aller chez ma sœur, mais c'est petit et il y a déjà mon frère et ma mère, donc j'ai décidé de venir ici.
Tahani le sait, sa maison a été détruite par l'armée israélienne. Cette dernière a annoncé qu'aucun retour ne serait possible dans l'année à venir, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est une excuse, dénonce le député palestinien de Tul Karem, Hassan Khreshe.
En 2022 et 2023, il y avait des groupes armés, mais plus maintenant. Beaucoup ont été tués ou arrêtés par l'armée israélienne ou par l'autorité palestinienne. Ils veulent faire ici comme à Gaza. Les Israéliens ont commencé à réoccuper des parties du nord de la Cisjordanie. Ça s'accompagne des déclarations de Donald Trump. Il veut relier des territoires occupés par Israël en Cisjordanie et renommer la Cisjordanie sous le nom israélien de Judée et Samarie. Mais nous, les Palestiniens, nous ne partirons ni en Jordanie, ni en Égypte.
En effet, au-delà de son plan pour contrôler Gaza et en expulser les Palestiniens, le président américain a également évoqué l'annexion de la Cisjordanie par son allié israélien. Plusieurs députés républicains défendent activement cette idée au Congrès américain.
Un reportage d'Oriane Verdier à Tul Karem avec les moyens techniques de Julien Boileau. Reportage à retrouver dans le journal de 7h, temps universel de Jeanne Bartoli. Il est 13h16 tout pile à Tokyo. Nous voilà au Japon où la tension monte avec la Chine, notamment en mer de Chine orientale. Pékin qui multiplie les provocations et les intimidations et qui déploie de plus en plus de bâtiments militaires. Tension qui se cristallise autour de l'archipel d'Okinawa à l'extrême sud du Japon, juste en face de Taïwan, situé à une centaine de kilomètres de Taipei. Un archipel sur le pied de guerre où s'est rendu notre correspondant Bruno Duval. Reportage.
À Yonaguni, tout est prêt pour si jamais Pékin attaquait Taïwan ou bouclait la mer de Chine orientale, empêchant toute navigation et donc le ravitaillement de l'île par voie maritime. Koji Sugama est en charge de l'élaboration des plans catastrophes.
Yonaguni compte 1648 habitants. Le jour venu, s'il survient, un pont aérien évacuera les personnes qui le souhaitent vers la grande île de Kyushu, qui est située au nord de l'archipel d'Okinawa. 11 vols se succéderont sans discontinuer du matin au soir. Les fonctionnaires municipaux seront les derniers à quitter Yonaguni. Notre objectif est de mener à bien l'évacuation de l'île en un jour, pas plus.
Les personnes qui ne souhaitent pas évacuer seront invitées à se regrouper dans les centres d'hébergement d'urgence où la population se réfugie en cas de catastrophe naturelle comme les séismes ou les tsunamis. Des stocks y ont été constitués, 3 litres d'eau par jour et par personne par exemple. Mais comme il ne s'agit pas d'abri antimissile, ces habitants n'y seront pas à 100% en sécurité. Le maire, Kenichi Itokazu, ne décolère pas.
Il n'y a pas un seul abri antimissile souterrain dans cette île, pas un seul. L'État m'en promet un, mais ça prendra des années. Pareil, ça fait des lustres qu'on réclame l'allongement de la piste de notre aéroport, où aujourd'hui seuls des petits bimoteurs peuvent atterrir. Cela va poser des problèmes si une guerre éclate et qu'il faut acheminer en urgence d'énormes renforts militaires ici. Quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans et demi, j'ai réalisé combien nous n'étions pas préparés à faire face à une crise majeure, car c'est l'évidence, notre gouvernement a beaucoup trop tardé à prendre conscience de la menace chinoise.
Plusieurs centaines de militaires sont stationnés à Yonaguni. À l'aide du puissant radar, ils surveillent en permanence les eaux territoriales et l'espace aérien. Il est aussi prévu d'y déployer des missiles sol-air de moyenne portée. Le Japon muscle son dispositif militaire à Okinawa et cela ne fait pas l'unanimité. En raison du poids terrible du passé, il y a 80 ans, la guerre tua un quart de la population civile de cet archipel. Cette retraitée qui milite bénévolement dans une association pacifiste est effarée.
Tirons les leçons de notre passé tragique et faisons en sorte qu'il ne se reproduise pas. Notre pays est régi par une constitution pacifiste. On commémorera bientôt la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus que jamais donc, le Japon doit s'interdire une nouvelle dérive belliqueuse.
Année après année, Tokyo accroît son budget de la défense. Il atteint désormais une 60 milliards d'euros, soit davantage que le montant des dépenses militaires de pays comme la France ou l'Allemagne. Bruno Duval, de retour de Yonaguni, RFI.
Et un reportage à retrouver également sur notre site internet www.rfi.fr, à l'onglet reportage international et sur notre application Pure Radio. Gros Gros plan désormais sur Mayotte, archipel de l'océan Indien, frappé en décembre dernier par le cyclone Chido. Mayotte, département français le plus pauvre de France, sur lequel s'est penché le photographe Franck Tomps, parti à la rencontre de la population mahoraise, ce qui donne un album intitulé Mayotte en République. Des photos, loin des clichés, sur ce territoire complexe. Franck Tomps, invité ce matin de Muriel Malouf.
Franck Tomps, quelle a été votre impression en débarquant à Mayotte, puisque vous ne connaissiez pas, donc vous êtes allé avec l'idée de photographier cette île. Quelle a été votre première impression ?
Ma première impression, c'est que je pense arriver dans un département français. En fait, j'arrive en Afrique. C'est le seul département français où les gens sont d'origine africaine et d'obédience, grande majoritairement musulmane, puisque c'est 95% de la population à peu près. Vous avez eu un foisonnement aussi avec beaucoup d'enfants partout, et on n'est pas sans savoir qu'en métropole, ben, les enfants, on les cache. Là-bas, on les cache pas, ils sont partout. Et d'ailleurs, les enfants, enfin les moins de 18 ans, représentent à peu près 50% de la population. Donc vous avez une jeunesse qui est présente et qu'on voit partout.
Une jeunesse et des gens que vous photographiez. Comment vous avez été accueillis ?
C'est très difficile de parler de l'accueil d'Amzungu. C'est comme ça qu'on est nommé là-bas quand on est blanc et qu'on vient de la métropole. Parce que finalement, il y a un rapport qui est biaisé dans les rapports humains là-bas. Vous avez quand même une population noire pauvre, parce que même les Maorés, qui sont français, sont finalement assez peu argentés. Et vous avez après une grande partie de la population qui est étrangère, à peu près la moitié.
D'ailleurs, vous le soulignez dans votre livre, dans le texte qui accompagne les photos, c'est le département français le plus pauvre, avec un revenu médian de 262 euros. C'est la débrouille pour survivre.
Les Comoriens sont des gens qui sont extrêmement débrouillards. Ce sont des gens qui ne se laissent pas avoir par leurs conditions, qui cherchent toujours des solutions.
Vous parlez aussi de la solidarité.
La solidarité, mais bien sûr. Alors nous, en métropole, la solidarité, elle est nationale et en fait, elle est institutionnelle et on a l'habitude de la concevoir comme ça. Mais là-bas, la solidarité, elle est beaucoup liée aux conditions de vie et à l'extrême pauvreté. Donc si vous n'êtes pas solidaire avec vos voisins, s'il n'y a pas d'empathie et en fait un système de vie qui est organisé autour de la solidarité, vous ne pouvez pas y arriver.
Alors dans vos images, la nature et le milieu urbain sont souvent réunis. C'est un reflet de la réalité dans cette île.
Mayotte est sur un territoire tropical, donc vous avez l'omniprésence de la nature, c'est magnifique, c'est luxuriant. En même temps, c'est très dominé, parce que par exemple, vous avez des reliques de forêts primaires, mais vous n'avez plus de forêts primaires. Après, il faut quand même rappeler que Mayotte, c'est un tout petit territoire, de l'ordre d'une superficie de l'île de Ré. C'est vraiment un confetti, en fait, au milieu du canal du Mozambique. Et donc, malgré tout, c'est un milieu tropical, vous avez une nature généreuse, vous avez des primates, notamment, il y a une seule espèce de primates sont les maquis. Vous avez aussi des très grandes chauves-souris qu'on appelle les roussettes, qui font jusqu'à 1,20 m d'envergure, qui sortent une heure avant le coucher du soleil. Et là, c'est très impressionnant, c'est très beau. Et vous avez ces maquis qui viennent en ville chercher des fruits sur les arbres que les Maorés font pousser dans leur jardin pour pouvoir s'alimenter.
Franck Tomps, à l'issue de ce projet, qu'est-ce qui vous reste de votre séjour à Mayotte ?
Je garde une ouverture d'esprit. Je vois aussi à regret que finalement cette diversité, la mosaïque que représente aussi un tel département dans le paysage français, on en parle comme des problèmes en continu alors qu'on a quand même une vraie diversité culturelle là-bas dont on ne sait pas s'enrichir en métropole.
Merci Franck Tomps. Donc Réplique, Mayotte en République, c'est votre ouvrage de photos paru aux éditions Locaux.
Franck Tomps, invité ce matin de Muriel Mahalouf à Mamoudzou, il est 7h23.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et c'est l'heure de retrouver Caroline Paré et toute l'équipe de Priorité Santé installée cette semaine au sud du Sénégal.
Priorité Santé vous retrouve pour notre deuxième émission au Sénégal en Casamance pour parler santé et vaccination en milieu scolaire. Nous allons échanger avec des élèves, des soignants, des enseignants impliqués dans une campagne de prévention. Objectif, lutter contre le papillomavirus, responsable notamment du cancer du col de l'utérus, première cause de mortalité par cancer ici au Sénégal chez la femme. Séance de sensibilisation et de vaccination à l'école Maria Finko Diata de Ziguinchor. L'occasion de répondre aux questions des adolescentes et des jeunes garçons sur leur santé. Donner la parole à celles et ceux qui les encadrent et qui luttent à leur niveau aussi contre les rumeurs et la désinformation. Docteur Abdoulaye Barry, gynécologue obstétricien, chef du service de la maternité du centre de santé de Ziguinchor.
Parler du cancer du col de l'utérus est important aujourd'hui parce que c'est un problème de santé publique qui est majeur. Le human papillomavirus est un virus qui est sexuellement transmissible et c'est le virus le plus répandu parmi les virus sexuellement transmissibles. Et ce n'est pas le fait qu'on est en contact avec le human papillomavirus qu'on va forcément développer le cancer du col de l'utérus. Et c'est ça l'avantage de la vaccination, parce qu'il faut savoir qu'entre la femme et le cancer du col de l'utérus, c'est une très longue histoire qui peut durer plus de 10 ans. L'infection peut disparaître spontanément. Cependant, il y a des situations dans lesquelles il y a une persistance de l'infection à human papillomavirus. Et c'est dans ces conditions que la femme peut développer ce qu'on appelle des lésions précancéreuses.
Nos invités échangent avec des élèves pour parler donc de cette campagne de vaccination en milieu scolaire dans Priorité Santé. Émission à Ziguinchor à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel avec Ophélie Lassen et Victor Hull. Émission à retrouver aussi à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré, on vous retrouve à Ziguinchor tout à l'heure. Mais nous on termine avec la Congolaise Tchégué pour Sing My Song. Comme il faut, Sing My Song de Tchégué, choix musical ce mois-ci des programmateurs musicaux de RFI. C'est la fin de cette demi-heure d'info. Benoît Vandenbroek était à la réalisation, François Ballarin à la rédaction en chef. Dans un instant, le retour de l'info africaine sur RFI.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet « Actu » de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Depuis son arrivée en France, Lucie Mouchita a été victime de propos racistes et sexistes. Née en Rhodésie, actuel Zimbabwe, elle pensait être aguerrie, mais rien ne justifie ce qu'elle a entendu. De ses scènes quotidiennes, elle en a fait un recueil où la colère le dispute au rire, un livre intitulé « Expat Blues ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.